Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le début vendredi de la collecte des Restos du Cœur, cela va durer jusqu'à dimanche prochain. Les associations d'aide aux plus démunis constatent une hausse de la précarité en France. Illustration dans votre journal en Haute-Savoie avec Joël Possiche, président des Restos du Cœur dans ce département, vous l'entendrez. Le bilan du naufrage dimanche en mer Méditerranée au large de l'Italie s'est encore alourdi. Au moins 65 candidats à l'exil sont morts. Le cri d'alarme du député belge Nabil Boukili face à la situation en Cisjordanie occupée. Il demande une réaction de la communauté internationale après les violences contre des civils palestiniens dimanche près de Naplouse. Nous l'écouterons. 36 morts, 85 blessés, le bilan d'un accident de train en Grèce, une violente collision frontale entre un convoi de marchandises et un train de passagers. La Grèce va observer 3 jours de deuil national. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en Irak, sa première visite depuis 6 ans. Une visite dans le but de soutenir les efforts vers la paix. La mort d'une légende du football français et marocain. Juste Fontaine était âgé de 89 ans, né à Marrakech. Juste Fontaine a joué dans plusieurs clubs marocains, dont l'US marocaine de Casablanca. Le début vendredi prochain de la collecte nationale des Restos du Cœur, cela va durer jusqu'à dimanche prochain. La hausse de la précarité se ressent sur l'ensemble du territoire. Nous accueillons 27% de personnes en plus que lors de la dernière campagne et 50% d'étudiants. C'est ce que nous dit Joël Possiche, président des Restos du Cœur d'Haute-Savoie. Entretien.
Lorsque l'on a lancé notre 38e campagne au mois de novembre, on s'attendait bien évidemment à une augmentation du nombre de personnes accueillies. Et sur le département, pour résumer, on est à 27% de plus de personnes accueillies. Donc c'est énorme. On ne s'attendait pas à autant d'augmentation. On s'attendait à peu près à une 15% et à 27%. Et dans les nouvelles personnes qui arrivent au Resto du Cœur, qui viennent frapper à notre porte, on a beaucoup d'étudiants, donc 50% de plus d'étudiants par rapport à l'année dernière. On a aussi beaucoup de personnes, de nouvelles personnes qui en fait dorment dans des voitures, donc ça c'est aussi très symptomatique cette année, hein, donc puisqu'on a beaucoup de demandes de sacs de couchage. Et on a aussi évidemment beaucoup de personnes monoparentales, hein, avec des enfants. Bien évidemment, nombre de personnes accueillies égale plus de besoins. Donc c'est pour ça qu'on lance notre collecte nationale avec dans l'espoir de récolter beaucoup plus que l'année passée.
50% d'étudiants supplémentaires, c'est ce que vous nous annoncez. C'est un chiffre
Absolument.
Impressionnant.
Oui, c'est impressionnant, oui, tout à fait. On ne s'y attendait pas, mais les étudiants, il faut savoir quand même qu'ils ont beaucoup souffert de la crise du Covid. Il y en a beaucoup qui ont arrêté leurs études à cause de la crise du Covid. Et au mois de février-mars l'année dernière, on a lancé donc une aide aux étudiants, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose en fait, hein, pour les aider. Et puis là, ça explose, hein, et ça continue, quoi. Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Hein. Donc, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes concernant l'énergie, hein, vu l'augmentation de l'énergie, et qui ne se chauffent plus non plus. Donc on leur donne aussi des vêtements chauds, des choses comme ça, enfin des sacs de couchage pour qu'ils puissent en fait au moins avoir un petit peu chaud. Hein. On fait aussi le soir sur Annecy des repas chauds pour les gens de la rue. Et là c'est pareil, hein, 40% supplémentaires par rapport à l'année dernière de gens de la rue qui viennent chercher un repas chaud le soir. Quoi. Donc c'est très important cette année.
Vous touchez du doigt, hein, si je puis dire, cette accentuation, cette hausse de la précarité en France?
Ah, complètement, oui, ça c'est net. Hein. Alors, il y a quand même, pour être tout à fait honnête, on a en fait 2 facteurs qui ont engendré en fait cette hausse. On a changé nos barèmes. Ça veut dire qu'en prévision en fait de la crise et de l'inflation, on a changé un peu nos barèmes pour accueillir un tout petit peu plus de monde. Et ça impacte à peu près d'un quart sur l'augmentation. Mais les 3/4 restants, c'est dû en fait à la crise, l'inflation, l'augmentation des tarifs, l'augmentation des prix. Ça, c'est, voilà. Donc en fait, on a notre augmentation de barème a eu très peu d'impact sur l'augmentation du nombre de personnes accueillies. Mais par contre, la crise économique, oui, ça c'est clair.
Vous évoquez notamment cette hausse très importante du nombre d'étudiants. Lorsque vous parlez avec ces jeunes personnes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce qu'elles vous expliquent pourquoi elles sont contraintes de bénéficier de votre aide?
Les étudiants qui ont des parents en fait ou des proches qui peuvent les aider sont moins affectés que d'autres ou qui ont simplement une famille qui n'a pas trop de moyens et qui aussi, évidemment, ne peut plus aider l'étude des étudiants. J'ai eu une fois affaire à des personnes qui, en fait, n'avaient pas les moyens de payer simplement une chambre d'étudiant, quoi. Donc, c'est compliqué pour eux. Et après, acheter vu l'augmentation des prix, ils ont des très faibles budgets, hein, les étudiants. Même s'ils ont des aides universitaires, ils ont des très faibles budgets. Hein, donc, on les aide au maximum, hein, évidemment. C'est ce qu'on peut. Hein, avec, on a encore suffisamment de stock pour l'instant pour tenir. Mais vu l'augmentation, si notre collecte nationale ne fonctionne pas, et on a quand même quelques craintes sur cette collecte, hein, puisque évidemment le coût de la vie a augmenté. Avant, on avait beaucoup de pâtes, mais les pâtes, je ne sais plus combien ils ont pris de pourcents, mais c'est voilà. Donc on risque effectivement d'avoir beaucoup moins de produits collectés. Alors on essaye aussi d'étendre le nombre de magasins collectés, de faire appel un petit peu à tous nos donateurs. Il faut que cette collecte soit une réussite, hein, sinon on va à la catastrophe.
Cette collecte, hein, qui aura lieu du 3 au 5 mars prochain. La crise actuelle aujourd'hui a déjà un impact sur les dons pour les restos ?
En Haute-Savoie, je dirais non quand même. En Haute-Savoie, non, on a quand même, les Restos du Cœur ont quand même une belle image de sérieux, de rigueur. Ce qui fait que les donateurs sont fidèles quand même, globalement fidèles. Après, c'est un petit peu comme si vous voulez un bénévole. Un bénévole, nos bénévoles sont fidèles, sont très très impliqués dans le fonctionnement. Mais lorsque l'essence augmente, lorsque la nourriture augmente, même si on est généreux, on est limité quand même. Donc voilà, alors après il faut s'élargir sur l'impact qu'on peut avoir dans les magasins, communiquer pour amener d'autres personnes à nous donner. Mais je dirais que nos donateurs sont assez fidèles quand même. Hein. On a eu l'année dernière, la même époque, on a eu la crise en Ukraine aussi. On avait des collègues qui se faisaient pour l'Ukraine et pour les Restos du Cœur en même temps. Et on s'est aperçu finalement que les gens donnaient pour l'Ukraine, ils donnaient aussi pour les Restos du Cœur. Et on a fait une collecte qui était très, très très correcte. Cette année, c'est un peu plus compliqué puisque là, ce sont les prix qui augmentent, c'est les tarifs qui augmentent. Et là, ça va être compliqué. Mais bon, vous savez, on n'est pas défaitiste. Hein. On se bat pour que notre collecte soit une réussite. Hein. Donc on met tout en œuvre, hein, pour vraiment faire de cette collecte une belle réussite quand même et qu'on puisse continuer à donner à manger à tout le monde jusqu'à l'année prochaine. Quoi. Voilà.
Dans quelle ville sont situés les centres de distribution en Haute-Savoie, en dehors d'Annecy?
Alors on a Thonon, on a Cluses, on a Annemasse, on a Rumilly, on a Faverges, on a Thiers aussi.
Vous évoquiez cette collecte qui aura lieu du 3 au 5 mars prochain et vous lancez un appel à bénévolat à cette occasion.
Oui, alors on a besoin, si vous voulez, pour une collecte nationale sur les 3 jours. L'année passée, on avait à peu près 1000 personnes. Là, on a augmenté donc le nombre de magasins. Il nous faut 200-300 personnes de plus, hein, pour collecter convenablement, puisqu'on a augmenté le nombre de magasins. On a augmenté aussi nos jours de collecte. Hein. Bon, d'habitude, le dimanche, on faisait pas beaucoup de magasins. Là, on ouvre aussi de la collecte le dimanche pour essayer de ratisser au plus large les dons. Donc on a besoin de monde, que ce soit sur une demi-journée, une heure, on a besoin de monde. Il n'y a pas besoin de s'engager sur 2-3 jours. Simplement une heure à nous aider, c'est déjà bien. Quoi. Donc ça, c'est important. Donc besoin de bénévoles, oui, sur des gens motivés, et puis aussi besoin de donateurs aussi. Voilà. Donc on peut faire bénévoles et donateurs aussi, hein, bien sûr.
Les Restos du Cœur, dont la principale activité est la distribution de nourriture, mais ce n'est pas la seule activité des restos.
On a l'aide alimentaire, ça c'est sûr, mais on fait de l'aide à la personne aussi. Hein. Ça veut dire qu'on essaye de voir avec les gens qui viennent chercher à manger quels sont les problématiques, si on peut les aider dans certains domaines. On travaille beaucoup sur l'estime de soi pour que les gens puissent, par exemple, aller chercher un travail avec une tenue un peu correcte. Essayer aussi l'aide juridique, l'aide à l'informatique aussi, puisqu'il y a beaucoup de démarches qui se font maintenant par informatique et des personnes qui n'ont pas seulement l'informatique. On fait aussi, avec les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on a aussi nos centres itinérants qui quadrillent un petit peu toute la Haute-Savoie pour aider les gens qui sont dans les zones éloignées ou qui ne peuvent pas se déplacer. On fait aussi des ateliers cuisine, dentistes. Et puis on travaille aussi avec les associations qui ont aussi les mêmes objectifs que nous. Hein. Donc on travaille main dans la main pour essayer d'aider au maximum les gens, hein, que ce soit que ce soit dans leur démarche administrative que dans l'aide alimentaire. Donc on est tous unis en fait hein, pour vraiment aider les personnes au maximum. Hein. C'est notre souhait. Et après, donc si on a un médecin qui vient et qui a des compétences, eh ben on va ouvrir, on va diriger les gens vers la médecine, etc. Donc on a aussi, on donne aussi beaucoup de conseils aux gens. Hein. Donc c'est tout un ensemble en fait. Hein. C'est de sortir, essayer de sortir les gens de cette précarité en fait, que ce soit par une aide concrète ou une aide alimentaire, mais on essaye en tout cas.
Joël Possiche, président des Restos du Cœur de Haute-Savoie. Des voix s'élèvent en Italie pour dénoncer l'inaction des secours et des autorités après le naufrage d'une embarcation de migrants dimanche dernier en Méditerranée. Au moins 65 personnes sont mortes, plusieurs dizaines restent portées disparues. L'embarcation s'est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte italienne. Selon l'agence européenne de garde-frontières Frontex, qui avait été la première à repérer le bateau, quelques 200 personnes se trouvaient entassées à bord de l'embarcation partie d'Izmir en Turquie, tandis que les gardes-côtes italiens ont donné le chiffre de 150 passagers et seules 79 personnes originaires d'Afghanistan, du Pakistan, de Somalie, d'Iran, des territoires palestiniens et de Syrie ont survécu à ce naufrage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en Irak. Il a assuré la population irakienne de sa solidarité et du soutien des Nations Unies pour accompagner le pays vers la paix, un pays qu'il visite pour la première fois depuis 6 ans. Antonio Guterres a également espéré pour l'Irak un avenir de paix et de prospérité avec des institutions démocratiques consolidées. Le dossier du nucléaire iranien, l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme avoir identifié des particules d'uranium enrichi proches du seuil de fabrication d'une bombe atomique. Ces particules ont été découvertes dans des échantillons collectés en janvier dans l'usine souterraine de Fordo. L'AIEA a demandé des clarifications pour déterminer l'origine de ces particules. Les élections présidentielles et législatives en Turquie auront bien lieu le 14 mai prochain. Comme prévu, une annonce du président Recep Tayyip Erdogan, cela malgré le séisme dévastateur du 6 février dernier qui a fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Le président turc a dénoncé les voix critiques qui se sont élevées contre la gestion de cette tragédie par son gouvernement. Le cri d'alarme du député belge Nabil Boukili face à la situation en Cisjordanie occupée. Il demande une réaction de la communauté internationale après les violences contre des civils palestiniens dimanche près de Naplouse. La ville de Huwara a été attaquée par des dizaines de colons israéliens après la mort de deux d'entre eux par des tirs palestiniens, le député belge Nabil Boukili.
Le regard que je porte sur la situation, c'est que la souffrance que vit le peuple palestinien depuis des décennies, aujourd'hui s'accentue de manière de plus en plus forte. On sait que depuis quelques semaines, il y a un gouvernement d'extrême droite qui est à la tête de l'État d'Israël, et que ce gouvernement d'extrême droite a une vision, une politique expansionniste et une politique très agressive envers les Palestiniens. Et on voit que ça se met en pratique de plus en plus. Quand on voit que des colons qui attaquent des Palestiniens sont protégés ou accompagnés par l'armée israélienne, ça veut dire que l'État cautionne ce genre de violence, et ce qui n'est pas étonnant d'une certaine manière, puisque ça fait partie de leur lecture et leur vision politique. Maintenant, ce qui est déplorable et scandaleux, c'est que le reste de la communauté internationale ne réagit pas face à ces agressions. Je ne comprends pas le fait qu'il n'y a pas eu de réaction forte, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau des États européens ou même au niveau international. Cette inaction politique est insupportable. Et ce n'est pas un manque d'outils d'action, parce qu'on l'a vu quand il y a eu la guerre en Ukraine, à juste titre, il y a eu des réactions et des condamnations quand on est face à des violations du droit international et des droits humains. Par contre, quand il s'agit des Palestiniens, ou plutôt quand il s'agit d'Israël, qui est un allié stratégique et politique de l'Europe et du monde occidental en général, ben là on ferme les yeux sur le droit international et sur les droits humains. Cette hypocrisie devient de plus en plus flagrante, elle est insupportable, elle est injustifiable. Donc moi, ma question à la communauté internationale, c'est qu'est-ce qu'ils attendent pour agir contre un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement qui terrorise la population palestinienne et un gouvernement qui a comme objectif d'aller jusqu'au bout d'une politique coloniale et d'apartheid face à un peuple désarmé et abandonnée par la communauté internationale.
Alors la France a réagi par la voix du Quai d'Orsay en appelant le gouvernement israélien, au titre de sa responsabilité de puissance occupante, à protéger les civils palestiniens et poursuivre les auteurs des violences commises, selon les mots du ministère français des Affaires étrangères. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour vous, vous demandez des actions concrètes.
Ça, ce n'est pas une réaction politique, ça c'est une communication politique. Une réaction politique, c'est quelles mesures on met en place pour arrêter l'impunité d'Israël face à sa violation du droit international et des droits humains. C'est ça. Quand il y a eu l'agression en Ukraine, on n'a pas dit, les ministères français ou belges ou autres, ils n'ont pas dit juste « j'appelle à la responsabilité de Poutine de revoir ses actions ». Ils ont pris des mesures, ils ont pris des sanctions. Ils ont développé une politique contre l'agression de Poutine et de la Russie en Ukraine. Pourquoi ils ne le font pas vis-à-vis d'Israël? Comment ça se fait que, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a remis en question même les accords économiques jusqu'au point de suspendre ou d'annuler les contrats de gaz, alors qu'aujourd'hui, le premier partenaire économique d'Israël, c'est l'Union européenne? Pourquoi on ne remet pas en question ce partenariat économique? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Moi, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'il faut de plus sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut que les Palestiniens subissent encore pour qu'il y ait une réaction et un sursaut d'humanité? Et des déclarations du ministère des Affaires étrangères français ou autres ne sont plus suffisantes. En fait, ça se voit aujourd'hui que c'est seulement de la communication et que ce n'est plus des positions politiques. Nous, ce qu'on demande, c'est des positions politiques et des actions concrètes. Face à cela, il y a une hypocrisie et une inaction politique dans le monde occidental qui se justifie par des partenariats économiques et politiques avec Israël. Et là, on voit qu'on n'est pas sensible de la même manière aux droits humains et aux droits internationaux, en fonction de qui en face. Est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est un adversaire stratégique?
Le député belge Nabil Boukili, 36 morts, 85 blessés, le bilan d'un accident de train en Grèce, une violente collision frontale entre un convoi de marchandises et un train de passagers qui effectuait le trajet entre Athènes et Thessalonique. Un feu s'est déclaré et a piégé plusieurs personnes à l'intérieur des wagons. La Grèce va observer 3 jours de deuil national. Emmanuel Macron entame ce mercredi un déplacement de 4 jours en Afrique centrale. Le président français se rend dans 4 pays. Le Gabon d'abord, où il est attendu pour un sommet sur la protection de la forêt équatoriale avant une escale en Angola, puis au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État terminera sa tournée en République démocratique du Congo. La mort d'une légende du football français et marocain, Juste Fontaine, était âgé de 89 ans. Il a été le footballeur qui a marqué le plus de buts dans une seule Coupe du Monde. Juste Fontaine en avait marqué 13 en 1958 en Suède. Né à Marrakech, Juste Fontaine a joué dans plusieurs clubs marocains, dont l'US marocaine de Casablanca. Il avait été sélectionneur du Maroc de 1979 à 1981. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, Radio Orient qui étend son réseau de diffusion. Votre radio est disponible en DAB+, depuis ce mercredi, à Reims, Troyes, Vitry-le-François, Épernay, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières. Cela comprend aussi les agglomérations de ces villes. Plus de 45 secteurs sont désormais couverts en DAB+. Plus 11 sur la bande FM. Pour bénéficier de l'écoute des radios diffusées en DAB+, il suffit d'avoir un poste ou un autoradio équipé de cette technologie. L'invité de Pluriel à 19h et 23h, Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, secrétaire départemental du Parti communiste des Bouches-du-Rhône, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.